Matière à penser, Patrick Boucheron.
Dernière émission consacrée à poésie et histoire, ce thème qui nous a occupé toute la semaine. Quand la poésie se fracasse sur l'histoire, c'est l'histoire qui rend aussi compte du fracas de la poésie. Et une vie brève et magnifique et cinglante, une vie poétique comme celle de Velimir Khlebnikov en rend compte admirablement. Les éditions Verdier, qui ont 40 ans aujourd'hui, cette année, publient les œuvres de Velimir Khlebnikov, 1919-1922, c'est-à-dire le dernier tiers de sa courte vie poétique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yvan Mignot, qui est poète et traducteur, mais il faut bien être poète pour traduire cette extraordinaire poésie. Bonsoir Yvan Mignot.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous habitez en Ardèche?
C'est cela.
Vous aimez les arbres?
Oui.
Vous vous en occupez?
Oui.
Vous avez publié maintenant des arbres dans la collection La Molesta de Fidel Antalm X.
Oui, à Marseille.
Et c'est comme poète que vous avez découvert Khlebnikov?
Pas vraiment. comme russisant, au moment de la licence et juste après, j'ai fait ce qu'on appelait un diplôme d'études supérieures. À l'époque, le poète soviétique majeur...
C'est Maïakovski. Donc vous voulez commencer...
Alors, je voulais faire cette petite thèse sur Maïakovski, mais il y avait déjà Friou, donc je me suis dit, c'est pas très intéressant d'aller dans ses traces. Et à ce moment-là, je crois, dans les lettres françaises, j'ai découvert en français Khlebnikov, qu'avait traduit des bouts, qu'avait traduit Elsa Triolet. Et donc, j'ai fait un DES, un diplôme d'études supérieures, sur Khlebnikov, avec un thème bateau, évidemment, les thèmes d'inspiration de Khlebnikov. Et voilà, c'est donc commencé comme ça.
Vous savez à quelle date le premier poème de Khlebnikov est paru dans une traduction d'Elsa Triolet dans les lettres françaises?
Ah non, je me souviens.
Moi, je le sais parce que c'est le jour de ma naissance. Je viens
c'est
le 28 octobre 1965. Oui.
Voilà, c'est 65, ouais, 65, 66. Après, je pars à Moscou. Voilà.
Et pourquoi vous partez à Moscou d'ailleurs?
Je pars à Moscou parce que je suis marié, j'ai une fille et je peux pas partir par le biais universitaire. Donc, je suis engagé par les éditions en langues étrangères, les éditions du Progrès, dont certaines langues ironiques disaient que c'était plutôt les éditions du Régrès. Mm-hmm. Et j'ai travaillé comme traducteur et styliste, enfin, pendant 2 ans. Et après, j'en ai eu assez, je suis rentré. Et j'ai soutenu le troisième cycle, toujours sur Khlebnikov. Et après j'ai enseigné.
Avez traduit, vous avez d'ailleurs obtenu le prix Laure Bataillon en 2005 pour votre traduction des œuvres en prose et en vers de Daniel Hams, déjà chez Verdier. Mais là, c'est la grande œuvre qui est sortie cette année, plus de 1000 pages, très abondamment annotées. C'est une œuvre de titan que de traduire Velimir Khlebnikov.
Ça fait un demi-siècle que je le lis et que je le relis, pas lui seulement, les autres aussi, mais de manière moins approfondie. Et comme, effectivement, c'est... un corpus difficile. Les corrections ont duré assez longtemps. Donc j'ai fait des premières esquisses de ce qu'il a écrit en 14-18 et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il se décalquait sur moi et que je procédais de manière palindromique, c'est-à-dire à l'envers.
Qu'est-ce que vous diriez pour quelqu'un qui ne connaît même pas le nom de Khlebnikov? Comment vous pourriez caractériser sa poésie?
C'est pas facile.
Ossip Mandelstam disait même que c'est incompréhensible comme les discours d'un enfant.
Alors on a beaucoup insisté sur le balbutiement et tout ça. Mais moi, je crois que c'est un des seuls, peut-être même le seul à mon sens, qui regarde les choses au même niveau. Avec Maïakovski, on a le regard, on va dire bolchevique, pour simplifier. Klemnikov, lui, c'est ça qui m'a intéressé, parce que tous les spécialistes, les klemnikologues, comme on les appelle maintenant, ont délaissé un champ qui, à mon sens, est très important, c'est ce qui, à l'époque, est le ou la politique et qui devient de l'histoire. Et ça, on n'en parle pas. Or, il est du côté de la Révolution, il l'a prévu avec ses nombres en 1912.
Alors justement, oui, parce que c'est aussi quelqu'un qui voulait mettre en livre le monde et aussi le mettre en équation. Oui. On avait une rêverie mathématique qui est d'ailleurs qui met des équations dans ses poèmes. C'est tout à fait singulier.
Oui. Alors évidemment, il fait en quelque sorte, il fait un croche-patte aux mathématiques parce qu'il en fait autre chose. Il en fait un matériau de poésie. Mais ce qui l'a poussé à aller dans les nombres, c'est Tsushima, c'est 1905 et cette catastrophe. Alors, une grande puissance occidentale est écrasée par un tout petit pays qui s'appelle le Japon, puissance orientale. Bien.
Alors, il est né en 1885, il n'est pas né dans la Russie de Pouchkine ou de Tchekhov, il est né dans la steppe kalmouk, c'est-à-dire très loin, c'est-à-dire aux confins de l'Asie, et dans une famille très singulière. Il passe son enfance autour des oiseaux empaillés de son père, qui est ornithologue.
Oui.
Et sa mère ?
Et sa mère, elle est historienne de formation et elle est liée dans sa jeunesse au Narodniki, aux populistes et aux poseurs de bombes. Donc il connaît très bien cette histoire de la gauche trépidante.
Et lui, il va faire des études de mathématiques ?
Il va faire des études de mathématiques à Kazan, qui est une université prestigieuse où il y a beaucoup d'agitation, et où Lobachevski, un des fondateurs des géométries non euclidiennes, a été recteur là. Kazan est une ville tatare. Bien sûr, il y a des Russes, mais c'est les Tatars, c'est-à-dire des sunnites. Alors que Astrakhan, c'est une ville. Il y a un critique qui s'appelle Mirsky qui disait que c'est la ville la plus ontologique de la Russie. Donc il y a un croisement entre l'Inde, le Bouddha. Les Kalmouks sont bouddhistes de rite lamaïste. Donc il a entendu ces choses-là et il y a des mots tatars dans ses poèmes.
Alors ses premiers poèmes datent de 1908 ?
Non, il a écrit avant. Mais la première publication, oui.
Donc les premiers publiés sont en 1908.
Il est plus à Kazan, il est arrivé à Pétersbourg, si je ne me trompe. Il fait des études un peu comme ça, éclectiques, sanskrit, etc., des choses comme ça, littérature.
Et là, du point de vue de l'histoire de la poésie, on peut dire qu'il s'inscrit dans quel courant, les premiers poèmes ?
Il fréquente la tour de, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire le salon de Vyacheslav Ivanov, qui est un grand poète symboliste, qui a fait ses études avec Mommsen, qui est helléniste, etc., latiniste, enfin, qui est quelqu'un de l'ancienne culture. Et il propose ce texte, je crois, il l'a proposé, La Tentation du Pêcheur, qui est une relecture de la Tentation de Saint-Antoine, de Flaubert. Mais les monstres sont dans la langue et non pas dans les images.
C'est ce qu'il va cesser de dire. Oui. C'est que dans la langue, il va nicher ce qu'il appelle la tache noire. Ouais. Et c'est la tache, justement, l'autre. La tache de la poésie que de la voir en face.
Oui. Et donc, c'est pas publié. Et je pense que là, c'est un peu un hasard. Il tombe sur... il va porter ce texte qui est en prose, mais c'est très rythmé, à un jeune poète qui s'appelle Kamiensky, qui va devenir un futuriste, comme on les appelle, mais qui a la particularité d'être aviateur. Il va même se scratcher à Varsovie. Et il lui donne ça, et le directeur de cette revue, cette édition, chez Bouyev, si je me trompe, accepte. Donc c'est sa première publication. C'est très comment dire, c'est archaïsant.
C'est archaïsant.
Oui.
Mais avec un vers qui n'est pas le vers des symbolistes russes.
Non, non, parce que c'est quasiment une prose et c'est une espèce de retour de litanie comme ça, mais en même temps, ça touche des choses, il y a le temps, il y a des choses comme ça qui vont un peu l'obséder.
Alors, Yvan Minot, on va faire entendre cette langue. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que vous lisez en russe et moi, je vais lire votre traduction en français.
Entendu, entendu. Alors, c'est un court poème de 1908 qui est basé sur... les rimes sont ce qu'on appelle des rimes équivoques, dont les grands rhétoriqueurs ont fait grand usage, mais qui, en Russie, au 19e, ne relèvent pas de la grande poésie. Donc... je vais essayer de rendre sensibles les rimes qui sont composées. Мне видны раковины, и мир лишь раковина, в которой жемчужиной то, чем не дужня. В шорохов свисте шествует стук вродича. И тогда мне казались волны и думы родичи. Млечными путями здесь и там возникают женщины. Милой обыденщиной напоена мгла. В эту ночь любить и могила могла. И вечернее вино, и вечерние женщины сплетаются в единый венок, которого брат меньше я.
Ce qui donne dans votre traduction française, Yvan Minot, « Je vois les constellations, cancer, bélier, et le monde n'est qu'une conque qui enserre, bel allié, cette perle à l'eau pure, ce par quoi je perds la santé, en un chantement soyeux s'avance un soupir en ch. M'apparurent alors vagues et pensées issues de mêmes branches, par voie lactée, ça et là surgissent des femmes, de banales dictames, la ténèbre s'est repue. En cette nuit, aimer même un sépulcre l'aurait pu. Et le vin vespéral, et vespéral aussi les femmes, tresse cette couronne triomphale de qui je suis le frère infâme. »
Alors, c'est pris un peu encore dans la poésie symboliste, mais déjà, les phonèmes apparaissent. Il y a le tch, donc il fait entrer ce qui après sera les phonèmes développés. Il a connu Jacobson dans les années 12-13. Et ils ont discuté.
Roman Jacobson, le linguiste
qui n'avait pas la gloire qu'il a aujourd'hui.
Et qui le prenait pour le plus grand poète du siècle.
C'est ce qu'il a dit, oui. Il connaissait bien Maïakovski, il a fréquenté tous ces poètes-là.
Les mots sont des poupées sonores, disait Klebnikov, et les dictionnaires, les collections de ces poupées.
Oui. Ben... Je dirais que c'est un poète, enfin, c'est mon point de vue, c'est un poète qui est très concret. Le problème, c'est de suivre, d'arriver à sentir et à comprendre, parfois on n'y arrive pas, les images qui sont parfois complexes.
Il écrivait d'ailleurs en 1914 « Anna Dejja Nikolaeva ». Je suis maintenant fermement convaincu qu'il n'y a autour de moi aucune personne capable de me comprendre.
Oui.
Alors, il faut dire aussi, Yvan Minot, que le moment que vous rendez dans cette extraordinaire aventure poétique qu'est la traduction des œuvres de Velimir Klebnikov chez Verdier, c'est un moment bref, au fond, ce sont ses quatre dernières années de vie. Il va mourir à 37 ans, de 1919 à 1922, donc du début de la guerre civile à la NEP. Ouais. Et c'est une vie d'errance.
Oui, oui. C'est une vie d'errance, et le plus extraordinaire, c'est que quand il fait ce que... Alors, beaucoup de critiques, enfin, ils comprennent rien, à mon sens. Alors, ils vont chercher dans la numérologie, dans Papus, etc., parce qu'il y a des nombres. Mais le propos est pas là, à mon avis. Il essaie... Son système est très simple. C'est un système qui évoque les taoïstes. La voix, le yin, le yang. Mais c'est un système à base de 2 et de 3. Son idée, c'est que dans l'histoire, il y a des phénomènes récurrents. Et quand il y a la guerre, la première grande boucherie du siècle, il fait une comparaison entre les événements qui se déroulent, donc ça veut dire qu'il lisait bien les journaux, on l'a fait passer pour un uluberlu, et les événements des croisades.
Le L de ces années a souillé les mains du sang des tsars. Oui. Le L, c'est la révolution.
Le L, oui. Le L, c'est le L de l'amour. C'est l'équation de Lorentz. C'est plein de choses. Mais le L, c'est effectivement ça. Et puis, c'est le début. De ce poème. Moi, j'ai traduit la cormonde en un seul mot. En russe, ça s'appelle la domir. C'est rêverie. Je dirais, c'est les rêveries du poète solitaire. Je ne crois pas que ça ait rapport avec l'utopie, qui est un mot très galvaudé. Dès qu'on ne sait pas quoi dire, on dit c'est de l'utopie. Je ne crois pas. Il rêve, effectivement, d'une société où le profit aura disparu et où les vaches auront des droits. Alors, est-ce une utopie? Est-ce un délire?
Donc, il n'est pas bolchevique, mais en tout cas, la révolution l'a bousculé. Enfin, la révolution l'a jeté dehors.
Oui. Ben, surtout celle de février, l'a libéré du service militaire. Et alors, le service militaire, marchait au pas impossible. Il considérait que il fallait éviter aux poètes ce genre de choses pour une raison très simple. C'est que ça casse leur rythme intérieur. Et pour lui, ce qui est très important, c'est la notion de pulsation. Le cœur pulse, les rochers pulsent, les planètes pulsent, les églantiers du soleil pulsent, tout pulse. Et pour lier toutes ces pulsations, il choisit le nombre. Mais à mon sens, c'est pas du tout mystique, c'est parce que c'est plus précis que le mot. Il sait de quoi il parle. Le mot, ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas à écrire des poèmes, mais il se lance dans cette aventure. Et puis, à la réflexion, je me dis que il brise par avance, même s'il n'est pas lu, hein, puisque tout ça, il n'a pas été vraiment publié.
Oui, alors ce qu'il faut dire, pardon, je vous coupe, Yvan Mignot, mais c'est que on parle de quelqu'un qui est sur les routes, à Kharkov, à Bakou, en Iran, en Finlande, et on parle de poèmes qui sont des feuilles volantes qu'il transporte avec lui dans une cage de poule ou dans une taie d'oreiller, dont il dit que au fond il les éparpille autour de sa maison et qui sont comme des taches blanches dans les buissons. Enfin, on est quand même dans une vie rimbaldienne, d'errance absolue.
Oui, mais pas avec la frénésie. Ça serait Rimbaud errant, certes, mais avec quelque part Mallarmé. Donc c'est pas très étonnant, puisque Mallarmé dit, quand on lui objecte qu'il est illisible, je préfère penser que des contemporains ne savent pas lire.
Oui, alors donc, c'est pour ça que vous dites, Yvan Mignot, qu'il recherche l'exactitude, c'est-à-dire cette pulsation du monde, il veut la mettre dans ce qu'il appelle un livre sévère.
Voilà.
Et la sévérité.
C'est
sévère parce que c'est rigoureusement exact pour lui.
Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. En même temps, ça pulse, mais il y faut le regard de scalpel du mathématicien ou du physicien. Et alors, à propos justement des publications d'œuvres, son plus gros tirage de son vivant, c'est La nuit dans la tranchée, un poème qui a été publié pas par un ami en poésie, puisque c'est Essénine, c'était pas particulièrement ami, 10 000 exemplaires.
Ah oui, quand même.
Oui, ça doit être en 20 à peu près. Mais c'est le seul. Après, du temps soviétique, eh bien, il faut attendre que 1935 pour que Lili Brick envoie Primakov, le héros de la guerre civile, porter la lettre à Staline, où elle dit que Mayakovsky est le plus grand poète, le plus talentueux de notre époque révolutionnaire. Staline transforme l'époque révolutionnaire en époque socialiste.
Alors, donc, on va parler de tout ça.
En 1935, la révolution est morte.
Bien sûr, mais ça, on va en parler. On va mettre Klimnikov dans un portrait de groupe avec Mayakovsky.
Alors, grâce à Mayakovsky, parce que 1940, anniversaire de sa mort, par ce biais-là, Khrushchev réussit à publier un Klimnikov inédit. Avant, je dois dire qu'il y a une très belle édition, moi j'aime beaucoup, même si elle a des erreurs, elle est incomplète, etc. C'est l'édition de Tinianov de 28-33, tirée à 3000 et quelques exemplaires, ce qui est quand même pas mal. Mais qui la lisait un cercle restreint, il ne faut pas se faire d'illusions. Même Maïakovski, alors, à l'époque.
Oui, il faut aussi dire qu'on est dans une poésie sévère, rigoureuse difficile, à la limite, parfois, du compréhensible.
Oui.
Parfois, vous ne dites pas qu'il était fou.
Moi, je ne le dis pas. Artaud aussi. Mais enfin, je préfère... Enfin, dites-moi.
Dites-moi.
Mais je pense, pour en finir, avec le jugement de Dieu, avec cette fin. J'ai vu beaucoup de machines et loin derrière les Américains. Et puis la fin sur le peyote, et ça. Donc, délirant, je veux bien, mais un délire, on essaie de l'écouter, même si on ne l'entend pas. Et en plus, ça a servi beaucoup à l'époque. Il y a même un psychiatre qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Futurisme et folie ». Donc c'était associé, c'était des fous, bien sûr.
Ce sont des fous. Alors parlons, Yvan Minot, du zaoum, parce que justement, le zaoum, c'est une forme réglée du délire, on va dire.
Ouais,
c'est un type de poésie où le son rejoint le sens primordial directement vers l'esprit, c'est ça? C'est-à-dire, enfin, au-delà même de l'esprit.
C'est au-delà, c'est un peu... dans l'espace, ça donnerait transcaucasie.
Ok. Voilà. Et vous, alors, vous traduisez comment zaoum?
Moi, j'ai traduit par outram. Pourquoi? Mais parce que j'ai des contraintes. Je me suis posé la question... Alors, Zanghezi... Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Tignanov, parce que non seulement c'était un théoricien de la littérature, il a travaillé sur dans les archives, et il écrivait. Et ses romans sont assez beaux. Voilà. Et donc, Tignanov, c'est l'archaïste novateur.
Oui.
Alors, on a transformé son titre entre, parce que c'était un peu les archaïstes et les novateurs. Non, son idée, c'est pas ça. C'est qu'à partir d'un archaïsme, on peut faire du nouveau. Et il a créé un très beau texte qui vous plairait, puisqu'il s'intitule « L'entretemps ». On a traduit habituellement l'intervalle, l'entretemps. C'est juste après la mort de Lénine, en 24, où il fait un peu le tour des poètes. Donc, il y a Pasternak, il y a Mandelstam, il y a Maïakovski, il y a Khlebnikov.
Et d'ailleurs, Ossip Mandelstam disait de Khlebnikov qu'il était ce grand poète archaïque, qu'il était aussi une taupe qui a creusé dans la terre des galeries pour l'avenir au-delà de son siècle. Qui a creusé dans la terre des galeries pour l'avenir au-delà de son siècle. Donc c'est bien effectivement ce surgissement vers nous qui est cette poésie de l'outram.
Oui, de l'outram. Alors... Bon, c'était une contrainte de traduction. À un moment, dans Zanghezi, parce que Zanghezi, son prénom, c'est Shankara. Shankara, c'est le maître des Védas. C'est un Indien, peu importe. Et ça commence par « Om, Bom, Som », etc. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, Khlebnikov connaissait très bien ce mantra, c'est un mantra de force, avec ça, « Aum », on fait, en principe, vibrer tout l'univers. Donc, ça ne pouvait que l'intéresser. Vu d'où il venait, en plus, la steppe bouddhiste. Et donc, je suis coincé, parce que si je traduis « transmental », si je traduis, alors j'ai mental, quand je vais décliner, à un moment, les mentales va apparaître, c'est trop long. J'ai le choix, en français, entre deux sons brefs, de vocables brefs. Homme, ça va pas, et âme. Donc je m'appuie sur Spinoza, et puis je fais âme. Et à ce moment-là, j'ai outram. Et après, je peux décliner, parce qu'en même temps, c'est un toxin qui cogne contre l'esprit. Alors le tocsin, ça renvoie justement à Tkachev, c'est-à-dire au poseur de bombes.
Bon, on a bien compris.
On
a bien compris que chez vous, Yvan Minot, en Ardèche, nous avons les échos, la pulsation et de l'outram et des poseurs de bombes. C'est d'ailleurs ce que vous voulez nous faire entendre, Yvan Minot, un chant kalmouk.
Oui. Oui.
Ben on l'écoute.
Alors, il n'y a pas des bombes, mais on l'écoute.
Al-Darabogdo-Jangara-Khnakuchungur-Vandogobola-Debainla-Narasin-Suram-Bara-Susin-Sakte Sen tümen kürüksün ise bumban olan tuncurra doğun elde dadavala giyici. Aksle harav adala gecil adıçan ilcili yokun. Yeni olula ginna yaldırı bogdı. Cangar yarın kor bodun tağın. Gülge digi yavçı ile tuk isin derim. Togi gadalı dorcili hakırı dökün yan olula gine. Halımengen hazar iğini hağı duğunala hazır asa halı ulan hazar ulan hağı çinlerden dörüğün soyağın soylu ulan hazar ulan Delemengen del tirigi del dererin düşün tavet Tolümengen tokumik tolığa degirin düşün tavet Dörüvülcün sahın sarı dererin düş haramiligi Dörüvün cildi gül çoğar toka dokkın yan ulu güne Tato tatren dörüvan kausunda yortun tata Dattık tağın her gün kötürün tata Kuyum bormakın rıgıl toka dokkın yan ulu ulu güne Erkin nerete büyüktün gelikçi koyroçun sankada doksun taktı Külgüdüm bədil qargatın mümbeysin qargaz oksa dokkın yan ulu ulu güne Aldırı dedi, bu kadar canları yarın koyar budun tağın. Tabin sarı narsar dotarlıksın, ayın sarı narsar kadarlıksın. Arun sarı narsar ara saldırı kürüge adın. Ölün gün kovada, yürüksün nönçün yarı karga deyişliksin. Çavaldırı toçılıksın, yavaldırı yelkeliksin. Ersin yeldin kartortsuk malak. Baron kartan,
atkada malak. France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie du poète et du traducteur Yvan Mignot qui nous fait écouter Dimitri Chabaïev chantant du Kalmouk.
Oui.
Et vous, vous l'entendez effectivement justement comme ce chant de la pulsation du monde.
Oui, et parce que Klemnikov a passé son enfance dans la steppe Kalmouk, c'est pas un enfant des villes. C'est pas Rams par exemple. Il préfère d'ailleurs... S'égratigner les mains en cueillant des murs plutôt qu'être enfermé entre les murs.
Et il préfère aussi la poésie à l'action poétique, d'une certaine manière, ou en tout cas la déflagration poétique à la violence politique.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas d'autre bombe qu'un livre, disait Mallarmé.
Oui.
Et c'est l'exergue de votre livre de poésie, oui, Yvan Mignot, oui. Maintenant des arbres.
Oui, parce que Maintenant des arbres, en fait, je m'interroge depuis fort longtemps, je ne suis sans doute pas le seul, sur la voie pacifique et la voie violente. Comment fait-on une révolution ? Je sais bien que le mot a perdu de sa puissance aujourd'hui, puisque... Tout et n'importe quoi, une révolution, la révolution des cacahuètes, ça fera des titres. Mais c'est pas très intéressant parce que depuis la Révolution française, qui manifestement est la seule qui ait réussi, on va dire, les autres ont suivi dans la foulée. La référence à la Révolution française, à Robespierre, elle est. Récurrente chez les bolcheviks et à la Commune, bien sûr.
Oui.
Mais la Commune était vaincue.
Alors affrontons le motif, Yvan Mignot, effectivement, entendu. Poésie et révolution. C'est bien de cela dont il s'agit,
oui.
Et c'est pour cela que vous avez choisi cette courte période intense, 1919-1922, pour la traduction des œuvres de Velimir Klemnikov. Plus de 1000 pages chez Verdier, ce qui dit aussi quel extraordinaire éditeur est Verdier, qui célèbre cette année ses 40 ans.
Tout à fait.
Et qui se lance dans des œuvres folles ça. Nous avons parlé à cette antenne de Dolores Prato. Et là, il s'agit de Velimir Klemnikov.
En ce qui me concerne, leur grande qualité, c'est de me laisser libre, c'est-à-dire de me donner du temps. Un traducteur professionnel, en principe, il a des délais dans une maison d'édition. Alors on lui demande, disons, pour faire simple, on lui demande de traduire un génie qui a passé toute sa vie à écrire, je dirais presque en 2 mois ou... Non, ça, moi, je peux pas. J'exagère un peu, bien sûr.
Le délai, c'était 50 ans, hein, c'est ça ? Vous avez mis 50 ans pour...
Oui, parce que j'ai traduit d'autres choses et pas j'ai traduit quelques Klemnikov, mais ma première traduction c'est pour quelqu'un que je connaissais bien à l'époque et qui s'appelle Tsvetan Todorov, et il m'avait demandé pour je sais plus quelle revue de linguistique de traduire un truc très technique d'un linguiste soviétique Apressian sur l'analyse distributionnelle. C'est ma première traduction.
Et après, vous avez traduit pour Action Poétique?
Pour Action Poétique, oui, beaucoup. Du Klemnikov, en 60, je ne sais plus quelle année, 75 par là. Le numéro consacré à Klemnikov et à Mandelstam, moi j'ai fait la partie Klemnikov.
Bon, alors donc, parlons de poésie et révolution.
Oui.
Le premier poème de l'année 1922, dans votre recueil traduit de Velimir Klemnikov, Ivan Migno, c'est presque un jeu, s'intitule « Qui ?». Alors, je le lis et vous allez nous dire de qui il s'agit. « Le gars à la nuque d'éléphant, aux énormes oreilles maladroites, tendres et bonnes, va de l'avant. Va de l'avant. » Lèvres pendantes, comme le mot « c'est ça », son menton de fer, de guide des foules, il fonce en avant, encore en avant. Aviateur aux yeux joyeux d'accidents en plein ciel, où le lugubre des mondes est parsemé de débris de l'oiseau de fer, les débris de l'oiseau joyeux, preux aux larges épaules, aux lèvres faibles, bienveillantes, qui sait ? Parfois, jouant de sa voix comme d'un sourire, il craque l'allumette des bons mots, contre la botte de la bêtise. Qui c'est ?
C'est Maïakovski. Il écrit ça, c'est un peu ambigu.
Oui.
Et c'est avant la rupture avec Maïakovski. Il y a une histoire de manuscrit, je ne vais pas le développer, parce que moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense que la gifle au goût public, c'est-à-dire le manifeste, mais ce n'était pas une première publication, on appelle ça maintenant un manifeste, mais ce n'est pas intitulé manifeste, peu importe. C'est un deal parce que ils ont balancé plein d'auteurs du paquebot de la modernité, ceux qu'on appelle les futuristes. Mais Klemnikov, Kouzmine, il n'était pas d'accord parce qu'il considérait Kouzmine comme son maître dans les années 10 à peu près, et il trouvait que Kouzmine était gentil. Il était effectivement gentil, il était homosexuel, et on l'a jamais embêté. Hein. Il est mort dans les années 30, il a vécu en couple. Donc, vous voyez, c'est un peu... Et Klemnikov l'aimait bien. Alors, les autres lui ont dit, non, mais après, tu feras un démenti. Voilà. Donc, il n'était pas tout à fait d'accord sur ce plan-là. Et, d'autre part, il n'a jamais employé le mot futuriste. Pour une raison simple, c'est une raison... je dirais, d'ordre théorique, parce que c'est un poète qui a une théorie. Ils sont pas très nombreux, les poètes qui ont une théorie. Il a un programme de poésie, comme on pourrait dire un programme scientifique, comme le structuralisme, par exemple. Et donc, dans ce programme, considérons, axiome de base, faisons comme s'il n'existait que la langue russe. Donc, futuriste, personne comprend, futuriste. Oui. Communiste, personne comprend. Bolchevique, on comprend, c'est du russe. Et alors, lui, il invente un mot. C'est Boudetlianin. Alors, les mots en in, c'est parfois la marque de l'appartenance à un pays, etc. Et donc, c'est ceux qui sont les citoyens du pays à devenir. Mais on ne sait pas s'il arrivera, ce pays, à devenir.
Pays à devenir. Et donc, ça pose la question...
Voilà, ça pose la question de qu'est-ce qui va venir.
Qui fort dans le passé ou dans le présent, de quoi ressurgir à l'avenir.
Et lui, qui n'a jamais eu d'enfant, très tôt, il se préoccupe des générations qui vont venir. Et il dit, cette génération-là, alors c'est une jeune fille d'origine ukrainienne qui fait des vers, qui dit, je veux pas aller à l'école, je veux pas apprendre l'allemand, etc. Et il se dit, mais... cette génération, dans X années, ça va être, en fait, ça va être la génération qui va connaître la grande boucherie de 14-18, suivie en Russie, on l'oublie souvent, par la guerre civile qui se termine début des années 20.
Oui, donc là, on est en 1922, donc oui. Il craque l'allumette des bons mots contre la oui. botte de la bêtise, oui. j'insiste oui. un peu, Yvan Mignot, oui, oui. parce que vous oui. êtes poète, mais vous êtes aussi érudit. Oui, alors, donc, à ce vers, vous mettez une note, et donc, il faut savoir si la botte de la bêtise est la botte de sa bêtise. C'est-à-dire, qui est bête voilà, dans absolument. Cette affaire? Est-ce que c'est Maïakovski déjà?
Ben, Maïakovski, il fait des jeux de mots, je dirais, un peu faciles. Klemnikov, il fait pas ça. D'abord, c'est quelqu'un qui reste silencieux et tout d'un coup, paf, il y a une pointe. Donc, il est plutôt dans le vitz que dans la blague. Et il y a une anecdote comme ça, je pense qu'elle est exacte. Il y a quelqu'un qui avait reçu, je sais pas quoi, l'ordre du drapeau rouge. Enfin, ils étaient une dizaine. Alors, Maïakovski dit, oui, d'accord, mais des comme moi, il y en a qu'un. C'est à quoi Klemnikov répond, des comme moi, il n'y en a pas.
Oui.
Donc voilà, il y a un duel à peu près constant.
Alors il y a un duel entre Maïakovski et Klemnikov.
Dont Jakobson rencontre, je ne sais plus, peut-être dans les... avec Pamorska, quand ils échangent comme ça, des réflexions. Ce que dit Jakobson, c'est que Maïakovski se rendait compte que le vers de Klemnikov... Il n'y arrivait pas à faire
oui.
ça.
Alors qu'à l'inverse, voilà. pour Maïakovski, ouais. en fait, sa poésie est sa carte du parti.
Absolument.
Il est bolchevique.
Oui.
Il est bolchevique.
Oui, enfin, il dit qu'il est bolchevique, enfin, qu'il est marxiste. Mais enfin, quand on regarde d'un peu près le moteur de la dialectique, si on a un peu pratiqué, ne serait-ce que Karl Marx, on peut être un peu... Mais effectivement, il s'inscrit là. Bon, c'est un poète de la commande. Il faut qu'on lui dise, d'où quand ils ont développé toute cette théorie, à mon sens un peu, je dirais dangereuse, en tout cas un peu tout à fait ambiguë, de la commande sociale. Klemnikov s'inscrit pas là-dedans.
Alors continuons justement à l'inscrire Klemnikov dans ce portrait de groupe avec Pasternak, avec Tsvetaïeva, avec
c'est un peu plus tard.
Oui, mais dans les années 30 justement pour comprendre, notamment son rapport avec Mandelstam.
Voilà. Alors avec Mandelstam, ils ont eu un clash en 1913 à propos de l'affaire Bélis. Qui est inconnu ici, mais il ne faut pas s'en faire. Dans les années 60, les Russes ne connaissaient pas non plus. Il y a un juif de Kiev qui a été accusé de meurtre rituel. Il y a un jeune russe, un gamin qui a été poignardé, il y avait 13, enfin bon, tout ça. Klemnikov a fait un poème là-dessus, et ils ont failli se battre en duel tous les deux. Shklovsky, Pushkin s'est fait assassiner là-dedans, et Filonov aussi. Et après, donc il y a un laps de temps très long, en fait, et il se retrouve en 22. Et c'est Nadezhda Mandelstam qui raconte ça, donc il décrit l'apparition de Klemnikov. Eux, ils avaient une ration, il y avait des rations pour les savants, et Klemnikov n'avait rien. Donc ils l'ont invité à dîner, et elle a été très frappée parce qu'il n'avait pas de montre. Mais il arrive sur l'heure. Évidemment, il était sur l'heure, là, il montre des étoiles, quelque chose comme ça. Et d'autre part, la dame qui les servait, une personne très simple, du menu peuple, elle considérait Klemnikov, quand elle l'a vu apparaître, comme une espèce de saint. Un Yuradi, oui, comme on dit en russe, un fol en Christ. Mais il n'était pas du tout fol en Christ.
Donc on voit bien, Yvan Mignot, qu'en traduisant cette poésie stellaire, cette poésie des oiseaux aussi, qu'on peut la qualifier, vous éloignez le rapport, ou vous le compliquez, en tout cas, le rapport entre l'engagement politique et l'intensité poétique. Mais revenons, peut-être pour terminer, sur Mandelstam, parce que c'est pour un public français plus familier, effectivement, de cette œuvre bouleversante et de ce destin magnifique, une question. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire, Mandelstam, lorsqu'il écrit en 1933 son épigramme à Staline, lorsqu'il parle de ses gros doigts, ses gros doigts sont gras comme des vers, ses mots comme des quintaux lourds sont précis, ses moustaches narguent comme des cafards, et tout le haut de ses bottes, lui, donc quand on lit ça, on dit, ok, très bien, c'est la poésie suicidaire, là, il se livre à la critique et à la terreur.
C'est ce que lui a dit Pasternak. Il a lu un certain nombre de personnes. C'était tout à fait imprudent, bien sûr, parce que on sait depuis le procès des SR à l'été 1922 que là se met en place un réseau d'informateurs, de délateurs professionnels, enfin les flics. Absolument invraisemblable. Donc après les années 30, il y avait tout le système était en place.
Oui, Mandelstam va quand même payer très cher.
Il va payer très cher. Donc Pasternak lui a dit, je veux plus entendre parler de ça, c'est pas de la littérature votre truc. C'est hors littérature, c'est ce qu'il lui a dit. Et ensuite il lui a dit il s'adressait pas à Mandelstam, mais il a dit comment il a pu écrire ça? Il est juif, ça veut dire que Pasternak, qui était poète, qui était juif, a lu quelque chose que nos commentateurs d'aujourd'hui, ici...
Ne comprennent pas. Et vous, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez de l'épigramme?
Ce qu'il faut entendre, c'est que c'est un... C'est ce que dit... Sinon, on peut pas comprendre la réflexion de Pasternak. Il y voit la reprise des caricatures antisémites appliquées à Staline. Et c'est pas le seul... Mandelstam, il a quelques côtés qu'on efface. On efface, comme ça, on construit un mythe. Mais pour Klemnikov aussi, on construit un mythe. Le mythe en soi est très intéressant. Klemnikov s'y est intéressé. Bien, les vrais mythes, ceux des Oroch, etc. Bon. Mais on construit un mythe pour les besoins d'une cause.
Donc le rapport entre la poésie et l'histoire qui nous a intéressé toute cette semaine, oui. Yvan Mignot, il n'est pas immédiat. La traduction ne sert pas, au fond, à simplifier ce passage, mais plutôt à le compliquer, à l'opacifier.
Oui, parce que, alors, soit on simplifie, alors c'est très simple, avant 37-38, non, un peu avant. Enfin, il y a la première période, qui est la période glorieuse. Alors, il y a ce qu'on appelle l'avant-garde, qui est un mot stupide, l'avant-garde. Roland Aronsveau était à l'arrière-garde, donc c'était à l'époque le... Bon, et si on met l'avant-garde, d'abord c'est militaire, c'est politique, l'avant-garde, le parti c'est l'avant-garde du prolétariat. Bon, pourquoi reprendre des termes comme ça? Les processus littéraires ont leur spécificité, artistique aussi, il faut trouver autre chose. Et après c'est l'étouffoir. Tout ça parce qu'il y a eu le congrès, le premier congrès des écrivains, qui a mis en place... une union des écrivains qui, en principe, c'est un syndicat qui a une particularité très précise. Il n'a jamais défendu personne. Mais c'est pas obscur. Il y a des poètes à l'époque dont on ne veut pas entendre parler, qui ont œuvré dans le cadre du réalisme socialiste. Et puis, il y a des noms russes. Et ça, c'est très important. L'arménien Tcharens, par exemple. Il y a des poètes qui écrivent en yiddish aussi. Donc tout ça est...
Yvan Mignot, on vous écouterait pendant des heures, mais voilà, alors, j'ai l'horloge devant moi, c'est comme Klemnikov, il y a la poésie stellaire.
J'aurais aimé effacer le nom de Saint-Pétersbourg et rétablir le nom de la ville prise dans le blocus qui s'appelle Leningrad. Et à Leningrad, il y avait une poète qui s'appelait Olga Bergholz, et qui est devenue la voix de Leningrad.
Merci Yvan Mignot. Matière à penser, Yvan Mignot, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donné, Anne-Pascal Desvignes, Patrick Boucheron. Et dès lundi, je cède mon siège, et ce pour toute la semaine, même heure, même antenne, à Antoine Garapon qui nous parlera des services secrets.